Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le Conseil de sécurité fait le point sur la situation en Syrie. Selon un nouveau rapport de l'OMS et de l'UNICEF, le taux de mortalité infantile à la naissance a diminué de près de moitié et la mortalité maternelle de plus d'un tiers depuis l'an 2000. À Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fait état d'une augmentation des actes d'intimidation et des cas de représailles à l'encontre de militants des droits de l'homme ou de membres de la société civile. Et en dossier, un scientifique nous explique pourquoi il faut tirer la sonnette d'alarme s'agissant de l'absence de progrès concernant les inégalités et l'environnement. Le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui pour discuter de la situation en Syrie. Pour l'heure, la situation humanitaire dans le nord-ouest du pays demeure alarmante, a déclaré la chef adjointe de l'humanitaire de l'ONU, Ursula Müller, devant les membres du Conseil. Pascal Sim nous en dit plus.
Depuis le cessez-le-feu unilatéral annoncé par la Russie en août dans la zone de désescalade d'Idlib, les combats ont diminué par rapport au mois d'avril, a déclaré Ursula Müller. Il est important que le répit tant nécessaire pour les civils continue, qu'un accès humanitaire sans entrave soit facilité pour atteindre tous les civils dans le besoin et que les infrastructures civiles soient épargnées, a déclaré la coordinatrice adjointe des secours d'urgence de l'ONU. Mais sur place, les signes inquiétants d'insécurité demeurent. Les forces sur le terrain ont continué à échanger des tirs dans le sud d'Idlib et dans l'est de Latakié, et des frappes aériennes ont été signalées dans le centre et le nord d'Idlib la semaine dernière. 400 000 personnes ont fui leur foyer entre mai et août, souvent vers le nord d'Idlib. Dans cette région déjà densément peuplée, les communautés d'accueil sont dépassées et la question du logement est particulièrement préoccupante. 600 000 personnes déplacées habitent dans des tentes et dans des camps et nombre d'entre elles vivent en plein air. Après des mois de combats, l'horizon dans le nord-ouest de la Syrie demeure incertain, a souligné Ursula Müller, alors que l'hiver et la baisse des températures se profilent.
Le taux de mortalité infantile à la naissance a diminué de près de moitié et la mortalité maternelle de plus d'un tiers depuis l'an 2000. C'est ce que note un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF. Les femmes et les nouveau-nés sont les plus vulnérables pendant et immédiatement après l'accouchement, avec un décès toutes les 11 secondes, principalement de cause évitable. Les deux agences onusiennes appellent à accélérer les progrès réalisés afin d'éviter la mort de 50 millions d'enfants d'ici 2030. On écoute l'explication du chef de la santé de l'UNICEF, le docteur Stéphane Peterson.
La communauté internationale a beaucoup travaillé pendant la période MDG avec les pays concernés sur des aspects techniques des services de santé, tels que les médicaments, les vaccinations, etc. Mais aussi pour que les filles vont à l'école, et qui est un assez important déterminant et indirect de la mortalité. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'accélérer les progrès pour qu'on arrive au but pour la fin des SDG. Et on compte 50 millions d'enfants de plus qu'il faut sauver. Donc, il faut deux volets d'accélération. L'un sur le service de santé primaire. Commençons au niveau communautaire, par des agents de santé communautaire, dans les centres de santé, etc. Donc, il faut investir plus de ressources dans les soins de santé plus primaires. L'autre volet pour la mortalité néonatale, il faut améliorer les qualités de soins de naissance dans les hôpitaux, dans les centres de santé, pour que la qualité soit améliorée.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fait état d'une augmentation des actes d'intimidation et des cas de représailles à l'encontre de militants des droits de l'homme ou de membres de la société civile. Ces actes sont observés dans toutes les régions du monde et les allégations de représailles ont été répertoriées dans 48 États. On écoute le sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme, Andrew Gilmour.
Au cours de l'année écoulée, l'intimidation et représailles se sont manifestées sous trois grandes catégories, actes de violence, restrictions politiques et juridiques disproportionnées et discours publics hostiles. Des actes de très grande cruauté ont frappé des personnes qui ont eu l'audace de venir ici aux Nations Unies nous faire part de leur communication, à savoir une détention secrète, mauvais traitement, torture, détention secrète, voire mort en situation de privation de liberté. Il n'y a pas que ceux qui se plaignent qui sont ciblés, mais aussi les membres de leur famille, les représentants juridiques, les intermédiaires, les témoins et les interprètes. Dans le rapport de cette année, vous trouverez plusieurs cas d'incidents nouveaux et en cours de disparition forcée ou de détention, dont certains ont été qualifiés d'arbitraires par les experts droits de l'homme des Nations Unies.
Il est encore possible d'éradiquer la pauvreté dans le monde, mais seulement s'il y a un changement fondamental et rapide dans les relations entre l'homme et la nature et une réduction significative des inégalités sociales et de genre. C'est ce qu'affirme un rapport publié la semaine dernière par un groupe indépendant de scientifiques. Nous avons rencontré l'un de ces scientifiques, Parfait Ilundu Enyenge, professeur à l'Université de Cornell aux États-Unis. Il explique pourquoi il faut tirer la sonnette d'alarme s'agissant de l'absence de progrès concernant les inégalités et l'environnement.
Il y a un point essentiel à retenir du rapport. Le premier, c'est qu'il y a une nécessité de tirer une sonnette d'alarme s'agissant des progrès ou de l'absence de progrès que le monde est en train de réaliser dans quelques domaines, notamment celui des inégalités et celui de l'environnement. Mais en même temps, il y a des pistes si l'on agit rapidement et si l'on agit méthodiquement et avec l'appui de la recherche scientifique. Donc, si vous voulez, l'essentiel pour moi, en tant que scientifique, c'est en fait l'apport possible et nécessaire de la science lorsqu'on se projette dans l'avenir.
Est-ce que vous pensez que cette contribution de la science, que c'est quelque chose qui, dans le monde actuel, est contesté?
La contestation n'est pas absolue. Il y a une négociation. La science doit, si vous voulez, négocier et renégocier et prouver ses contributions. Elles ne sont jamais acquises. La science a un combat de communication à mener et ce combat est constant. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que même dans les systèmes où les apports de la science sont reconnus et acceptés, c'est qu'il faut des plateformes actives qui permettent aux scientifiques d'avoir un influx utile et accéléré dans la prise de décision politique. Donc c'est moins une question d'acceptation. Non, mais plus une question d'interaction continue avec la décision scientifique.
Dans votre domaine, quelle est, selon vous, la contribution que vous pouvez apporter au débat sur le développement durable et sur la réalisation des objectifs?
Ma réalisation personnelle, je travaille dans les domaines de l'inégalité, les jeunes, l'éducation, la démographie. Et pour beaucoup de pays, les changements démographiques en ce moment sont au centre de beaucoup de progrès qui vont être accomplis ou non, aussi bien dans le domaine de l'inégalité que celui de la croissance ou même celui de la préservation de l'environnement. Et donc, ma contribution personnelle en marge du rapport, mais aussi intégrée dans le rapport, c'est justement au niveau des apports de la démographie. En particulier, en Afrique, en ce moment, on a une génération charnière qui va influencer de façon durable les perspectives de développement sur le continent africain.
Et selon vous, comment cette nouvelle génération peut être encouragée à participer à un développement durable?
Il y a un effort d'analyse d'abord, mais aussi un effort d'application, si vous voulez, des bonnes pratiques qui ont été éprouvées dans les pays qui sont passés dans leur phase de transition démographique avant l'Afrique. Il y a un certain nombre de défis que cette génération doit pouvoir surmonter, avec l'aide bien sûr des pouvoirs publics. Les défis sont celui de l'accès à l'emploi tout d'abord, mais aussi celui de la mobilisation sociale. Donc, les jeunes, d'une manière générale, la jeunesse d'une manière générale, est un point essentiel, que ce soit dans la transition vers l'âge adulte, vers la transition dans le monde de l'emploi, ou même dans l'implication sociale. Alors, les décisions qui sont prises à ce moment, que ce soit les décisions en termes de choix de carrière, les décisions en termes de mobilité géographique, des décisions en matière d'éducation continue, de formation, de famille, de procréation, ont un impact durable sur la trajectoire des jeunes, mais aussi sur la trajectoire des pays même. Et si vous avez, comme c'est le cas actuellement, une génération qui est particulièrement nombreuse sur un plan historique, alors l'effet de cette cohorte-là, de cette génération, sera beaucoup plus, d'autant plus important que l'effectif est considérable.
Vous coordonnez un réseau de chercheurs africains. Comment avez-vous créé ce réseau et quels sont les bénéfices que vous en tirez?
Le réseau a été créé avec l'appui d'une fondation qui nous a permis de faire, pas tellement de la formation, mais un encadrement, un échange entre chercheurs en sciences sociales en Afrique francophone. Et donc l'idée, c'était de se mettre mutuellement à jour, d'apprendre des nouvelles des techniques de pointe en termes d'analyse démographique, sociale et économique. Et puis maintenant, d'essayer d'appliquer ces techniques dans le suivi, non seulement de ce qu'on appelle les dividendes démographiques en Afrique, mais aussi de toutes les questions d'émergence économique.
Voilà, fin de ce journal de Nuit Info. À retrouver sur notre page Internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.